Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs bien-aimés, n'est-il pas étonnant que la liturgie ait choisi pour vivre l'Avent depuis très longtemps de nous mettre en présence de Jean le Baptiste ? Car avec lui, elle est violente, la douceur de l'Avent. Avec ce mangeur de sauterelles en froc de chameau qui vient nous insulter. Convertissez-vous, car le royaume de Dieu est proche, le Messie qui vous baptisera plus efficacement que moi, qui vous plongera dans l'Esprit Saint, et le feu va récolter le grain que vous êtes censé avoir amassé, et il va brûler vos vanités comme la paille. Qui sont les destinataires des invectives du précurseur du Messie? Assurément, des Juifs, mais précise l'évangéliste, beaucoup de pharisiens et de sadducéens, des Juifs fervents, engagés. Jean le baptiseur s'adresse donc à des fidèles, ce qui est notre cas, je crois, si nous sommes là ce matin a priori, c'est-à-dire des personnes qui admettent et même confessent l'existence d'une vocation spirituelle universelle dont Dieu est l'origine et la fin. Comprenons, il me semble que c'est juste de le souligner, que le travail de préparation assumé par le Baptiste, c'est un traitement interne à la communauté qui regarde ce qui est déjà le peuple de Dieu. Donc c'est bien pour nous les amis. Voyez, Jean le Baptiste, il ne cherche pas à convaincre ses auditeurs de l'existence de Dieu, de l'appel de Dieu. Ceux qui l'écoutent en sont convaincus. La conversion dont il parle ne relève pas de la profession de foi, mais de quoi alors? De la mise en œuvre de la foi, ce qui est un petit peu différent. Engeance de vipère, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même: nous avons pour père Abraham, car je vous dis des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres. Traduction pour les chrétiens d'aujourd'hui: arrêtez de tortiller comme des serpents, de fuir la vérité. N'allez pas vous dire en vous-même: nous connaissons le Christ. Ce n'est pas en disant: Seigneur, Seigneur, que vous serez sauvés, mais en faisant la volonté de Dieu. Et ma volonté, c'est que vous alliez et que vous portiez du fruit. Voyez, est énoncée ici une distinction très importante qui demeurera un fil rouge dans l'enseignement de Jésus lui-même lorsque Jésus insistera à de nombreuses reprises sur le fait de ne pas mettre sa confiance seulement dans le fait de connaître la vérité, ce qui est déjà pas mal, mais d'être attentif à la mettre humblement en œuvre. Or, voyez, l'accomplissement de la volonté de Dieu ne regarde pas seulement les objectifs généraux. Il s'agit aussi pour nous, dans notre vie chrétienne, de choisir les moyens de Dieu, ce qui est un petit peu plus précis. Le chemin du Seigneur. En général, c'est là qu'on bute, qu'on tortille, que l'on peut manquer à l'appel. Et cela dès le départ. On adhère bien à la perspective du salut, d'une juste rétribution. On est plutôt pour, quand vous entendez les descriptions du prophète Isaïe dans la première lecture, du ciel, du paradis, avec le nourrisson qui joue sur le trou du cobra, on se dit, voilà, ça je suis pour, je désire cela, j'attends cela, voilà la direction que je veux prendre. Mais les moyens de Dieu, les façons de Dieu, ses commandements, ce qui nous inspire sur notre façon de vivre, d'agir, de nous y prendre, c'est là le point de conversion pour nous les fidèles, pourtant acquis à la cause a priori. Quand j'étais petit, une de mes tantes m'avait offert à Noël un album sur toutes les insultes, toutes les invectives du capitaine Haddock. C'est pas mal, je l'ai gardé, c'est très intéressant. Donc elles sont analysées une par une. Je pense qu'il faut réfléchir sur celles que Jean-Baptiste emploie ici. engeance de vipère. Je ne sais pas si le capitaine Haddock l'a déjà utilisé. En tout cas, si Jean choisit cette expression, ce n'est pas par hasard. Car le serpent dans la Bible, c'est celui qui avance, pas seulement dans la Bible, mais en général dans la nature. Je veux dire, ce symbole choisi dans la Bible, un serpent, ça avance en zigzagant. Ça se tortille. Ça vise une fin sans prendre le chemin le plus court, et pourtant naturellement indiqué. Vous me direz, c'est normal, il ne peut pas faire autrement, il n'a pas de pattes. Bon, d'accord, mais le symbole, c'est le symbole, c'est l'animal qui avance en zigzagant. Et en hébreu, la racine du mot « péché » évoque précisément le manquement de la cible, le fait qu'on n'arrive pas à atteindre la cible directement. C'est ça le péché. Jésus louera Nathanaël, le félicitera en disant qu'il est un Israélite sans détour. Ça veut dire qu'il va direct au but, qu'il ne tergiverse pas. C'est l'éloge moral suprême. Il est donc bienvenu pour nous d'entreprendre une nouvelle année en entendant cette mise en garde du Baptiste. Ne pas se contenter d'adhérer à une volonté divine générale, de dire au Seigneur « Oui, je veux bien de votre patrie, de ce ciel que vous me préparez. » Il faut dire aussi « Je veux le chemin pour m'y rendre. Je choisis les moyens que vous me désignez. » Jésus, qui est le chemin, en posant les fondations de son Église et de la vie chrétienne, a disposé un certain nombre de moyens que l'Évangile nous permet de repérer. Nous les connaissons. Parmi ceux-ci, car je pourrais en nommer de nombreux, mais comme nous sommes à quelques jours de célébrer l'Immaculée Conception, je voudrais vous dire un mot de l'importance qu'a pour nous la Vierge Marie et combien elle nous permet de filer plus droit, d'atteindre vraiment ce ciel que le Seigneur nous désigne. Marie, notre Mère, elle est sans doute le chemin le plus assuré que Jésus nous ait désigné pour avancer en pleine communion avec lui. Vous connaissez l'expression « à Jésus par Marie ». Alors, que Marie nous ait été donnée pour mère, il faut n'avoir jamais ouvert l'Évangile pour en douter. Il faut ignorer l'expérience universelle de 20 siècles de christianisme. Il faut n'avoir jamais prononcé un Ave Maria un jour que nous étions dans la peine. Donc je me dispense, si vous me le permettez, de le démontrer ici. Je vous invite simplement à ouvrir vos yeux, vos oreilles, votre cœur, si ça n'était pas le cas, si vous n'en étiez pas profondément convaincu, ce qui m'étonnerait. Non, la question que je poserai pour finir est plus simple. Pourquoi la présence de Marie dans la vie chrétienne représente, pour un fidèle, comme une garantie d'authenticité ? Pourquoi est-on incapable de citer un seul vrai chrétien qui ne lui ait pas ouvert son âme ? Pour essayer de le comprendre, je voudrais vous donner un exemple très simple qui fait écho à une expérience commune pour chacun d'entre nous. C'est le souvenir, quel que soit notre âge, de notre propre mère, dont nous savons qu'elle a participé et participe toujours à la formation de notre conscience. Vous voyez, lorsqu'un enfant au patronage ou dans les camps chrétiens que nous organisons à la paroisse ne comprend pas la gravité d'une faute commise en dehors du cercle familial, dans cet autre univers, dans cette famille que nous formons alors, pour le faire réfléchir, il suffit de lui dire « Dis-moi, mon grand, aurais-tu dit cela, aurais-tu fait cela devant ta mère ?» En général, c'est le coup de grâce pour sa conscience. Là, c'est la conversion au premier sens du terme, c'est-à-dire un retournement vers la vérité première. L'enfant redécouvre en quelque sorte, on lui dégage la voix de sa conscience par la mise en présence de cette première voix que sa personne a pu percevoir quand il était tout petit et qui fut et qui est celle qui lui indiqua en premier lieu le chemin de la vérité. Je vois des mamans qui sont contentes et qui sourient. Pour le dire autrement, il y a 1000 pensées, paroles et actes, 1000 pensées, paroles et actes que nous n'aurions pas produits et c'eût été préférable en présence de notre mère, n'est-ce pas vrai? Or, si la vie d'un petit homme consiste assurément à s'affranchir du giron de sa mère, de ses parents, de sa famille, pour lui-même, pour fonder à son tour un foyer, cette œuvre de détachement qui est soulignée par la Bible, vous connaissez bien l'injonction « il quittera son père et sa mère », la vie d'un petit homme chrétien consiste dans le même temps, si je puis dire, à se laisser progressivement adopter par celle que Dieu a pris lui-même pour mère. Si le Tout-Puissant, dans son humilité, a consenti à faire ses premiers pas, non seulement ses premiers pas comme tout petit enfant, mais également à mourir en homme dans la plénitude de sa maturité, sur la croix, en présence de Marie, en présence de sa propre mère, ne nous enjoint-il pas à faire de même, tout simplement? Quel orgueil nous pousserait à prétendre nous en affranchir? Pour finir, frères et sœurs, vivre en présence de Marie, il me semble, peut nourrir trois vertus et trois attitudes chrétiennes essentielles que je vous invite à mémoriser pour la semaine qui vient au cœur de l'Avent. Nous allons fêter jeudi l'Immaculée Conception. Trois vertus qui nous permettent de cultiver, d'aiguiser le sens de sa présence à nos côtés dans la communion des saints. Trois vertus qui vont si bien à Marie et à ceux qui veulent lui appartenir. D'abord, l'humilité. Vous en avez tous fait l'expérience, on ne se la joue pas devant sa mère. Vous êtes d'accord avec ça? On est comme on est devant sa maman. Notre mère nous connaît avec nos limites, nos faiblesses, autant qu'elle exalte nos grandeurs. Il y a toujours un côté mère juive chez notre maman aussi en même temps, mais elle nous connaît. Aucun effort n'est requis pour être soi-même devant sa mère. Sa présence nous aide donc à être humble. La présence de Marie nous aide à assumer ce que nous sommes. Vivons sous le regard de Marie pour bannir l'orgueil du monde. Deuxièmement, la pureté, la chasteté. Marie est un refuge assuré contre les souillures. Il y a des choses qu'on ne dit pas devant une femme, qu'on ne fait pas devant une femme, encore moins devant sa mère. Prions donc toujours Marie de rester auprès de nous. Son cœur immaculé est un paratonnerre très puissant. Et puis enfin, la confiance. Le peu que nous connaissons de la Vierge Marie est sans doute l'essentiel. Sa foi audacieuse, son enthousiasme, sa prompte obéissance du fiat de Nazareth au silence plein d'abandon du Golgotha. Vous voyez, en tenant sa main en toutes circonstances, à travers elle, pour ainsi dire, nous pouvons persévérer dans la foi et dans l'amour, tenir bon. Marie, c'est aussi une mère courage. Son audace n'est pas seulement exemplaire, elle est communicative. Humilité, pureté, confiance, nous pouvons retenir ces trois mots, trois bonnes raisons d'emprunter le chemin marial, de comprendre, d'expérimenter le mystère selon lequel Notre-Dame nous est donnée comme plus court chemin, comme pédagogue pour préparer le chemin du Seigneur et rendre droit ses sentiers. En la choisissant, frères et sœurs, pour mère et pour reine, ce que nous pourrons faire tout spécialement jeudi, en célébrant son Immaculée Conception, nous ne nous contentons pas de choisir Dieu du bout des lèvres, nous faisons nôtres les choix et les moyens de Dieu du fond du cœur. Amen.